Salut, c'est Igloo sur topmusique.fr, le Mac de l'habitat, avec Cédric Simonin.
Bonjour Eric.
Comment ça va Cédric?
Ça va bien, bien.
Je sens que vous êtes réjoui puisqu'on va parler d'un sujet que vous aimez tellement.
On va parler d'amour.
Ah, vous le dites tellement bien.
Eh oui.
On dirait un Italien.
Je sais
quand
bien.
Quand il sait qu'il y aura de l'amour et du vin.
Mais pour en parler, je sais.
On a invité pour parler d'amour, mais pas que évidemment, Maître Joël Rasser. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notaire depuis 2009 et vous êtes installé à Ingviller. Avec vous, on va parler d'un sujet. On en parle souvent. C'est vrai que ça, il peut y avoir des complications quand on se paxe, par exemple.
Oui.
Pax et prêt immobilier, qui rembourse quoi? Avant, après, pendant. Voilà, c'est le sujet de cette émission. Avec Cédric Simonin qui va vous cuisiner.
Eh oui. À feu doux. Comme en amour.
À feu moyen, allez.
Comme en amour. Oh, donc effectivement, j'ai dit qu'on allait parler d'amour. Mais quand on parle de Pax, on parle d'amour. Quand on parle d'amour, on parle aussi de séparation. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui dans Igloo. Et il y a une actualité qui est tombée, une actualité juridique qui est tombée en début d'année. C'est un arrêt de la Cour de cassation qui a modifié la charge de la preuve en cas de séparation de personnes paxées concernant le remboursement de leurs dettes immobilières, puisqu'on est dans Igloo. Et il m'a semblé intéressant de traiter ce sujet, un peu technique, mais ô combien important. Alors Maître, est-ce que, j'ai une première question, déjà pour que ce soit clair pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez commencer par dresser un tableau des deux types de Pax qui existent?
Alors oui, bien sûr. Alors je vais essayer de parler trop être technique pour éviter d'être trop ennuyeuse. Alors, il existe deux types de Pax qui peuvent être faits ou en mairie ou chez le notaire. Alors, les deux Pax qui existent, le principe du régime légal, c'est la séparation des patrimoines. Donc là, chacun garde ses biens, chacun garde ses dettes, sous certains tempéraments et surtout suite à la jurisprudence dont on va parler, cette règle est un peu mise à mal. Chacun gère également ses biens. Et le deuxième régime, qui est un régime dérogatoire, qui est le principe de l'indivision. Alors, ce sont deux régimes qui sont différents, et c'est là qu'intervient aussi le notaire. Quand on fait le Pax devant notaire, il vous explique évidemment en quoi ça consiste, les conséquences, comment fonctionne le régime, comment se dissout un Pax. Et vraiment, l'intérêt du choix du régime est fondamental. Il faut savoir qu'un Pax, c'est quelque chose qui potentiellement va vous suivre pendant toute votre vie. Hein. C'est comme un contrat de mariage. Il y a des gens qui le font pour un an, deux ans, trois ans en attendant de se marier. Et puis il y en a d'autres qui ont décidé, pour des raisons qui leur appartiennent, de faire un Pax pour toute leur vie. Pardon. Donc c'est très important de bien choisir le régime parce que ce n'est pas un choix ponctuel. Cependant, on peut quand même le modifier. Hein. Il ne faut pas s'imaginer parce que des choix de vie changent qu'on ne peut pas modifier le contrat.
Bien sûr.
Tant s'il est fait en mairie que devant le notaire, on peut faire un modificatif. Et donc, c'est ce choix qui est important. Alors, l'arrêt, je vais vous le faire en résumé. C'est un couple de partenaires, monsieur et madame. Monsieur et madame ont acheté un bien. Dans la foulée, c'était paxé. Donc, c'est un arrêt qui date du mois de janvier. Donc, vraiment, la jurisprudence la plus récente. Et ces personnes ont souscrit un prêt pour leur résidence principale. Monsieur gagnait nettement plus que madame, on parlait quand même d'un ordre de 4 à 5 fois supérieur. Et donc, pendant toute la durée du Pax, c'est lui qui a remboursé seul le prêt destiné à financer la résidence principale. Arrive malheureusement le moment de la séparation. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, du coup, beaucoup moins enclin à la générosité, veut récupérer les sous en fait, qu'il a mis à la place de madame. Et là, surprise, la Cour de cassation, enfin surprise oui non, mais en tous les cas, la Cour de cassation dit qu'il n'a pas le droit de récupérer la part à laquelle il a contribué à la place de madame. Parce qu'on estime que le fait d'avoir payé seul le prêt, en fait, tout simplement, c'est l'exécution d'un des socles du Pax, qui est l'aide matérielle que se doivent les partenaires. Et cette aide matérielle est réputée être proportionnelle en fonction de leurs revenus. Et donc, on estime que monsieur ayant beaucoup plus de revenus que madame, il est normal, somme toute, qu'il ait payé le toit qu'on mettait sur la tête des partenaires. Et le résultat des courses, c'est que monsieur n'a pas pu avoir de retour par rapport à ça. Et tout ce qu'il a payé, bah, il ne le récupérera jamais. Ça pose une problématique, parce que certes, l'aide matérielle entre les partenaires, c'est avec l'obligation de vie commune, avec le devoir d'assistance, des choses fondamentales. Et quand on s'unit par les liens d'un Pax, on est tenu de ça.
Bien sûr.
Cependant, est-ce que tout le monde est bien conscient des implications que ça a? Parce que les gens pensent quand même que quand ils payent plus que leur part, ils vont le récupérer, ce qui peut sembler logique. Et la conséquence de cet arrêt, c'est que du coup, on fait peser sur monsieur qui a trop payé la charge de prouver que ce qu'il a trop payé est supérieur à ce qu'il devait au titre de cette aide matérielle. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passait ? Madame n'a de toute façon, vu la faiblesse de ses revenus, pas pu économiser en parallèle. On estime que c'était la résidence principale du couple. Mmh. On estime qu'il a quand même pu payer des charges par ailleurs du ménage. Donc, on trouve ça normal. Et c'était à lui de prouver, éventuellement, si madame avait pu, grâce à ça, faire des économies, que ça excédait son obligation de contribution, ce qui n'a pas été le cas. Alors, il faut quand même tempérer dans le sens où, encore une fois, c'est un cas qui était quand même relativement particulier, relativement caricatural, qui vient dans la lignée d'une jurisprudence qui existait déjà pour les personnes mariées en séparation de biens, puisqu'il faut savoir que le PACS, notamment celui de le PACS de séparation des patrimoines, ressemble quand même fortement au régime matrimonial de séparation de biens. Et la problématique qui existe dans ce cas n'est pas non plus à généraliser. Cependant, ça met l'essence en alerte et ça devient d'autant plus important quand on fait le PACS d'aller voir le notaire pour bien voir avec lui comment faire dans ce cas-là.
Alors j'y viens. On a bien compris que les enjeux sont extrêmement importants et peuvent quand même avoir des conséquences relativement graves. Alors première question, comment on peut s'en prémunir ? Et puis y a-t-il des clauses spécifiques à intégrer dans les contrats de PACS ?
Oui. Alors dans le contrat de PACS et même j'allais dire dans l'achat aussi. Hein. Alors déjà, le PACS, le principe de base, c'est qu'il faut faire le bon choix de régime. Idéalement, un notaire majoritairement va pousser les gens vers la séparation des patrimoines parce que ça n'empêche pas les personnes d'acheter tout le temps en indivision moitié-moitié s'ils le veulent, mais le jour où ils ne veulent pas, s'ils veulent acheter seuls ou acheter dans d'autres proportions, ils peuvent le faire. Si ça n'a pas été fait au départ, je l'ai dit avant, on peut le modifier. C'est déjà arrivé qu'avant un achat, quand on a vu que les personnes voulaient acheter dans d'autres proportions, on a vite modifié leur contrat de PACS.
D'accord.
Après, la jurisprudence, il faut quand même le savoir, ne visait que le remboursement du prêt. Si des partenaires ont des apports personnels distincts, puis souvent en finance avec un prêt et des apports personnels, la jurisprudence ne vise pas ça. Hein. Si les gens sont sous séparation de patrimoine, on tient quand même compte de la différence d'apports personnels entre eux. Hein. On parle vraiment juste du prêt. Dans le PACS, on peut prévoir des clauses. Alors, évidemment pas dans le PACS que vous faites à la mairie, parce que ça c'est un formulaire, vous remplissez des cases. En parallèle, vous pouvez faire une petite convention, mais encore faut-il savoir sur quel point il faut mettre cette convention. Donc le notaire, dans le contrat de PACS, va vous dire « Attention, il y a l'aide matérielle, elle est d'ordre public, on ne peut pas la supprimer. » Cependant, on peut l'aménager, on peut mettre des clauses, justement pour éviter ce genre de situation. Et de plus en plus, avec la jurisprudence qui vient de sortir, clairement, on va appuyer notre discours là-dessus. Ça, c'est évident. Après, on peut également, au niveau des actes de vente eux-mêmes, mettre des clauses dans l'acte, et on le fait déjà pour expliquer comment les gens financent. Quand vous avez des partenaires qui viennent, vous leur demandez, vous achetez dans quelle proportion ? Souvent, le réflexe naturel, c'est « Ah ben nous, c'est moitié-moitié ». Alors si on s'arrête à ça, c'est bon, mais moitié-moitié, on a quand même une chance sur trois de se planter. Et quand on commence à creuser, et donc les apports personnels, vous les financez comment ? Et comment vous remboursez le prêt ? Et là, on se rend compte que leur discours évolue. Ils disent « Oui, moi je mets un peu plus, mais c'est pas grave. » Ou « C'est financé avec le compte joint. » Et les gens, à ce moment-là, ont besoin qu'on leur explique, parce qu'on parle d'amour et de séparation. Là, ils arrivent, ils sont paxés, ils veulent acheter, tout va bien. Mais qu'un jour, s'ils se séparent ou en cas de décès, ça peut aussi venir sur le tapis. Ça se complique et là, il faut être clair. Et plus, moins on a été clair au niveau des preuves qu'on s'est constituées, moins on a été clair dans l'acte de vente et en général, plus mal se passe la séparation. Donc, il ne faut jamais hésiter à garder les preuves. Et dans l'acte de vente, on peut prévoir ça. Le principe de base, je dis toujours dans un acte de vente, il faut prévoir que la quotité de propriété corresponde vraiment à la quotité de financement. Il ne faut pas dire qu'on achète moitié-moitié s'il n'a pas payé trois quarts. Sinon, on va au-delà d'embêtements, certes.
Oui, on va au clash. On a saisi les avantages principaux, hein, le fait d'insérer des clauses. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, l'autre avantage d'insérer ces clauses, alors outre plus de transparence et plus de facilité après dans la liquidation, c'est que ça inverse la charge de la preuve dont on parlait avant. La jurisprudence fait peser à celui qui a plus payé la charge de prouver que c'était excessif, cette surcontribution. Si vous mettez les clauses dans le PACS ou dans la vente, c'est l'inverse qui va se passer. À ce moment-là, c'est celui qui a le moins payé, s'il ne veut pas devoir rembourser à l'autre, qui va se retrouver en position de devoir expliquer que malgré les clauses existantes, ce que celui qui demande l'argent en retour a payé était simplement l'exécution de son aide matérielle. Et ce n'est pas évident. Dans un sens comme dans l'autre, hein, la charge de la preuve est difficile à rapporter. Mmh. C'est une question de fait. C'est une question qui est différente de certaines personnes par rapport à d'autres. Concrètement, c'est l'appréciation souveraine des juges. Et on ne peut jamais préjuger avec certitude de comment un juge va trancher la question. Donc, quand on n'a pas la charge de la preuve soi-même, c'est mieux.
En conclusion, comme c'est un domaine un peu technique, s'il fallait résumer en quelques secondes ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ?
Alors, les points de vigilance, c'est choisir le bon régime. Toujours dans les actes de vente, faire coïncider la quotité de propriété à la façon dont on finance. Et puis surtout, ne jamais hésiter à en parler au notaire. Il faut savoir que le conseil chez le notaire est gratuit. Donc, il ne faut pas que les gens hésitent. Il vaut mieux se prendre du temps en amont pour éviter le problème que de perdre du temps après à essayer de le régler.
Voilà, bon, on n'était pas là pour juger ce récent arrêt de la Cour de cassation. Hein, savoir si c'est bien ou pas bien, ça c'est un autre problème. On était là pour informer et pour débroussailler un petit peu tout ça. Et merci pour ces points de vigilance, Maître Rasser. À très bientôt.
Plaisir.
Merci d'être passé dans
Merci
Igloo.
À vous.
Igloo, on retrouve l'émission évidemment un petit peu partout, sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence, bien sûr, sur la chaîne YouTube, et sur Igloo, on air, c'est sur Facebook. Merci, c'est Eric Simonin, à très bientôt.
Merci.